Hommage à Thierry Loiseau, quatrième partie. Thierry Loiseau et Cinespagna. Cinespagna, festival du cinéma espagnol et portugais depuis 2001, a été suivi de nombreuses années et particulièrement apprécié par Thierry Loiseau. Certainement depuis le début de ce festival en 1996 jusqu'à son indisponibilité. Cinespagna, le 28e, va démarrer le 6 octobre et se terminera le 15, et sera encore l'occasion de voir de nombreux films de la péninsule ibérique. Quelques entretiens réalisés par Thierry marqueront son absence à cette 28e édition. Et ça démarre avec « Todos estamos invitados », « On est tous invités », de Manuel Guterres Aragon.
Tú eres bueno, yo soy John.
Sí, padre. Ama a Dios sobre todas las cosas.
Eres cristiano. Y los cristianos no matan a la gente.
El quinto mandamiento dice... No matarás. Tengo miedo.
Eres un valiente Gudari.
Es que darle un toque al profesor, al Gaspi.
Si tu cuadrilla no va a hacer nada, lo vamos a hacer nosotros dos.
47 personas están dispuestas a darlo todo para eliminarte.
¿Qué pistola?
La que me quitaste el otro día, gilipollas.
Si te vas, no te molestes en volver.
No se pueden olvidar los muertos de Hipercor. La pregunta es quién será el próximo.
¿Te han gustado las cocochas? Porque son las últimas que vas a comer en tu vida.
Bueno, en la película hay dos actores principales. Las películas, en realidad, en las películas siempre tiene que haber un protagonista, pero yo en este caso no sabría qué decir quién es el protagonista, sino José Coronado, que es un actor veterano y muy conocido en España. Y apreciado, y el caso de Óscar Jaenada, que es un joven actor muy prometedor, que hace ya películas en inglés y todo eso, ¿no? Yo creo que todas las películas deben de tener un protagonista, pero contra mi propia idea, en este caso, prácticamente los dos personajes son casi coprotagonistas. Si nos atenemos a los títulos de crédito, el protagonista es Óscar Jaenada, porque viene antes. Pero bueno, yo no sabría... Es curioso porque yo mismo me quedo sorprendido un poco de... Primero, la mezcla de los dos funciona bien, porque siempre que se pone un actor joven con otro veterano, la química suele funcionar, porque el choque generacional casi siempre funciona para bien. Y a mí me ha gustado mucho trabajar con los dos, en cualquier caso, ¿no? La verdad es que, luego pensándolo, todo esto son reflexiones de después de la película, ¿eh? Luego me di cuenta de que no han estado nunca juntos en el mismo plano.
Alors, une chose qui me revient et sur laquelle je veux insister, c'est que je m'en suis rendu compte après le film, mais ce n'était absolument pas volontaire. Les deux comédiens ne sont jamais dans le même plan.
Oui, tout à fait.
Mais je vous assure que c'était absolument pas pensée volontaire, donc je me suis rendu compte de ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, dans la mesure où habituellement dans un film, il y a un acteur principal et des acteurs secondaires. Et dans ce film-là, ce qui est problématique, problématique au sens large, c'est qu'on se retrouve plus ou moins avec deux comédiens principaux, deux rôles principaux, qu'il serait extrêmement difficile de dire qui a le rôle principal du film. Bon, il se trouve que pour des raisons alphabétiques, donc c'est Oscar qui est crédité comme ayant le rôle principal, mais je peux vous assurer que José Coronado pourrait très bien revendiquer le fait d'être l'acteur principal. Et concernant donc leur travail en commun, comme il arrive très 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 souvent, les gens pensent souvent le contraire, mais quand il y a une différence d'une génération voire de deux générations, il y a une sorte d'alchimie qui s'opère, et dans ce cas présent, ça a très bien fonctionné entre eux. Voilà, ils se sont trouvés, donc il y a eu des échanges, c'était parfait.
Un mot sur la scène d'action de l'attaque du camion, parce qu'on est plus habitué dans vos films à voir plutôt des scènes bucoliques ou de nature. C'est, à ma connaissance, c'est une première, quoi. Donc est-ce que c'est une scène qui vous a excité à tourner, voilà.
Bueno, es que como tú dices, mis películas más bien tratan de la mar y los peces, tratan más bien de cosas de la naturaleza, de bosques y todo eso, y no suelen salir escenas de acción, ¿no? Pero, en fin, en este caso, pues no eres el único sorprendido de que la película empiece con una escena de acción muy, muy trepidante. Yo mismo estoy sorprendido.
Mais vous n'êtes pas le seul à avoir été surpris en fait par cette scène d'action du début, donc de l'attaque du camion, dans la mesure où moi-même je me suis surpris à être surpris, vu qu'effectivement dans mes films c'est plus voilà, il y a plus une tonalité bucolique, il y a plus c'est plus de la symbolique, et ben là j'ai fait une scène d'action et je n'en reviens toujours pas.
En cualquier caso te diré que a mí me parece enormement divertido rodar escenas de acción.
Mais je te confirme que c'est véritablement donc un véritable plaisir, et je me suis vraiment amusé à filmer et à concevoir les scènes d'action.
Quelle expérience vous en retirez? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de scènes d'action dans les films de Gutiérrez Aragón à l'avenir?
Bueno, yo no sé si habrá más películas de Gutiérrez Aragón, no lo sé, pero la verdad es que el cine se inventó como con escenas de acción, y me parece muy, muy divertido hacerlas. No tanto hacerlas como luego montarlas, ¿no? En realidad, si de ser sincero, preferiría que las rodara otro y luego yo hacer el montaje.
Mais comme en quelque sorte, je partage plus ou moins ce que pouvait dire Hitchcock, c'est-à-dire que le tournage, à la rigueur, si quelqu'un d'autre pouvait s'en charger, ça m'arrangerait. Moi, je me contenterais de faire le montage. Mais bon, c'est pas le cas. Bon, merci de demander pour savoir s'il y aura d'autres scènes d'action dans mes prochains films. Il faudrait d'abord, je pense, demander s'il y aura un prochain film que je vais réaliser. Voilà. Donc moi, j'ai répondu plus ou moins. C'est que je trouve ça très très divertissant. Mais je me retrouve pleinement, véritablement, au moment du montage.
Pour finir, peut-être un mot sur la réception du film en Espagne. Qu'en est-il?
Bueno, la película ha ido bien desde el punto de vista comercial. Tampoco ha sido un arrolladora, pero ha ido bien, más que aceptable. Pero en cualquier caso, lo que sí ha dado lugar es a ríos de tinta. O sea, se ha discutido mucho sobre la película, porque no es muy frecuente que haya películas sobre el terrorismo, porque no es muy frecuente que haya películas sobre temas de actualidad, porque realmente es muy, muy, muy complejo hacer películas sobre un tema que sea muy actual.
En termes de chiffres et de fréquentation, le film a marché bien sans plus, mais il a relativement bien marché. En revanche, ce que ça a provoqué, c'est énormément de polémiques dans les journaux. On a beaucoup écrit sur le film, on a beaucoup discuté sur le film, parce que la question du terrorisme, lorsqu'elle est abordée en Espagne, fait toujours plus ou moins discuter, et on écrit toujours sur ce thème-là. Voilà.
Merci beaucoup, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Quoi.
C'était nous, c'était algo. Sobre la película, algo que no hayamos.
Ok, merci beaucoup.
De nada, han llamado.
Serán los obreros.
Pero si nadie tiene nuestro número de teléfono.
¿Quién te persigue?
Necesito que hagas algo. Luego te lo explicaré.
¿Por qué no me lo explicas ahora?
No es fácil de explicar.
¿Qué es lo que busca?
Escuche, necesito ayuda. Un hombre me está siguiendo, me quiere matar.
¿De dónde viene?
Por favor, llama a la policía.
No.
Joder, vámonos.
No, no hay ningún sitio donde ir. Puedes esconderte ahí.
¿Eh? ¿Qué es eso?
Que te atrape.
¡Eh!
Es solo cuestión de tiempo.
Has viajado en el tiempo.
Una película de Nacho Vigalondo.
Hay alguien ahí afuera, con la cara tapada. Yo oigo los pasos por las escaleras. Hay alguien en casa, Héctor.
Los cronocrímenes. Estreno el 27 de junio.
Alors, nous sommes sur la 13e édition de Cinespagna en compagnie de Kara El-Ejalde, acteur, donc d'un film qui s'appelle Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Avant de parler du film proprement dit, il me semble en tout cas que le film est passé dans un certain nombre de festivals spécialisés. Il a été à Neuchâtel, il est sélectionné à l'étrange festival de Lyon, et partout où il est passé, il semble que le film est bien accueilli. Donc c'est un film, je dirais, qui a une dimension peut-être internationale.
Et, en principe, lo que hace Nacho Vigalondo con esta película es una especie de trabajo de minimalismo. Tan solo cuatro actores, tan solo dos localizaciones, ninguna figuración. Y esto pues se va con ello a Austin, a Texas. Yo creo que los americanos hacen un cine basado todo en el fasto, el efecto especial, etcétera, etcétera. Y creo que fue la primera ayuda que tuvimos por parte de Harry Knowles, el protocrítico en silla de ruedas americano, y todos los americanos que se dan cuenta que se puede subvertir, o se puede, cuanto menos, se puede perturbar a la gente sin grandes explosiones, ni tiros, ni persecuciones. Entonces es una película de género que nos sorprende a nosotros los primeros el que tenga esa aceptación, que yo creo que el don de la película, claro, aquí debería estar Nacho para hablar de su película, yo como actor debería hablar del personaje, ¿no? Pero nosotros nos sorprendemos porque ya en América nos dan una especie de refrendo, ¿no? Es decir, oye, es una película que llega sin grandes fastos, sin grandes gastos, sin grandes aparatosidades escénicas, ni lumínicas, ni de efectos especiales, de FX, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que es una película que ha tenido muchísima aceptación a nivel internacional. United Artists, Tom Cruise, ha comprado la película para hacer un remake, ya está con el contrato, se ha vendido internacionalmente y, sin embargo, en España, por estas circunstancias particulares que vive hoy el cine español y yo creo que poco a poco el cine europeo, devenientes del problema del colonialismo cinematográfico americano, pero en cualquier caso ha llamado mucho la atención, ha llamado mucho la atención. Y claro, nosotros estamos encantados con eso. Sin embargo, en España no consiguió distribución hasta casi dos meses antes de su estreno. Es decir, es tremendo el problema del cine español, la tercera potencia mundial a la hora de rodar. Es decir, después de Estados Unidos y la India, España es el tercer país que más produce cine. Y sin embargo, España, ante una buena película, no tiene un mínimo de base de distribución para garantizar la distribución de esta película. Hemos sufrido mucho, mucho, porque la hemos hecho sufriendo mucho, ha costado mucho hacerla, estamos muy contentos con ella y nos ha sido muy difícil estrenarla.
L'Espagne, pour faire court, est après les États-Unis et l'Inde le troisième pays qui produit le plus de films. Et paradoxalement, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver un distributeur pour ce film. Deux mois avant la sortie du film, ce film n'avait toujours pas de distributeur en Espagne. Donc bizarrement, on est extrêmement content que ce film-là fonctionne à l'étranger. Alors, pour parler de son caractère, on va dire un tout petit peu universel, je pense que c'est basiquement l'économie d'effets. Quatre personnages, deux lieux, très peu d'effets spéciaux. Et d'une certaine manière, les Américains eux-mêmes sont bluffés par ce film-là. Bon, je vous rappelle entre parenthèses que les droits du remake ont déjà été rachetés. Et ils sont extrêmement étonnés de cette capacité à émouvoir, à toucher avec très 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 peu de moyens. Donc c'est vrai que ce film nous a pris énormément d'énergie, énormément de temps, a peut-être moins pas coûté énormément. Mais on a eu une forme de liberté qui fait que, avec une économie de moyens et une forme paradoxalement d'intemporalité, ce film peut très bien fonctionner dans n'importe quel autre pays. Il n'y a pas de marquage véritablement précis du pays. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il fonctionne extrêmement bien dans les différents festivals et non seulement en France, mais peut-être aussi également à l'étranger.
Alors, sans trop dévoiler l'intrigue, on peut dire que votre personnage, essaye de se retrouver, et plus il essaye, plus ça génère de problèmes.
Bueno, primero tengo que felicitar al traductor. Segundo, tiendo a extenderme mucho en mis contestaciones, así que me voy a extender de una manera más sincopada para que él tenga que hacer una traducción más eficaz. Efectivamente, el problema de este personaje es un décalage espacio-temporal. Es algo que, como no conocemos, yo creo que el ser humano tiene pánico a lo desconocido, porque a lo que conoces, bueno, pues lo puedes temer, pero a lo desconocido se le tiene más miedo. Y este hombre aspira a llegar a su status quo anterior, que no es ni más ni menos que un amor acabado entre dos cuarentones, casi cincuentones, y que está ahí la guinda de la chica guapa, que en cualquier película sería cambio. Chica vieja por chica guapa. Uh-huh. En este caso el hombre solo quiere volver a lo anterior. Lo anterior ya le parece feliz. Aunque sea un amor apolillado, él prefiere volver a su status quo anterior. Lo que pasa es que el desconocimiento de la situación en la que se encuentra hace que cada movimiento que hace lo cava más en la tierra, como muy bien has dicho.
Alors ce qu'il y a de terrible avec ce personnage, c'est que c'est quelqu'un tout simplement qui ne demande qu'à revenir à une forme de statu quo du début du film, et un statu quo très peu reluisant. Voilà, c'est quoi? C'est deux personnes qui ont la quarantaine, presque la cinquantaine, voilà, bien tassées. Et le personnage qui se retrouve donc embringué dans ce cauchemar, n'a comme but précis que ça. Du coup, il ne demande qu'à revenir à ce moment initial, alors que dans n'importe quel autre film, avec le personnage donc de cette belle comédienne, de ce beau personnage féminin, dans n'importe quel autre film, l'acteur principal, le comédien, laisserait donc sa femme pour partir avec cette petite jeune. Et là, il est au-delà de ça. Face à l'inconnu, bon, on a peur de ce que l'on connaît, mais peut-être moins de ce que l'on connaît moins. Donc, il y a, devant cette angoisse presque existentielle, il en est là. Il a à sa portée donc une femme absolument, une jeune femme absolument admirable, mais il est tellement perdu que ce qu'il demande, c'est justement revenir au début du film, en quelque sorte, à l'état, voilà, donc ce couple qui, sans doute, dans quelques années, finiront peut-être par se séparer ou pas, ou par ne plus avoir d'amour entre eux.
Comment vous avez gradué votre jeu dans la mesure où le film fonctionne par paliers, c'est-à-dire qu'on démarre sur une scène anodine du quotidien, puis il y a l'intervention du mystère, après on bascule plus dans le film policier, en fait, hein, la poursuite et l'angoisse, pour arriver à la science-fiction et terminer avec les scènes de la maison dans le film de terreur ou d'horreur, quoi. Donc il y a différents niveaux de jeu, je dirais. Donc comment vous avez gradué ces niveaux?
Bueno, en mi caso era muy difícil porque yo soy uno y trino. Soy como la Santísima Trinidad. Soy Héctor 1, soy Héctor 2, soy Héctor 3 y no podemos contar más. Pero sí que es cierto que era muy difícil trabajar para mí esto porque yo utilicé los colores, utilicé adjetivos y a cada adjetivo le puse un color. Digamos, adjetivos, estados de ánimo. Aquí estoy tenso, aquí estoy relajado. ¿Por qué? Yo sabía que hoy lunes yo empecé el primer plano de rodaje me puse de rodillas y alguien, el primer día de trabajo, me apuñaló por atrás con unas tijeras. 22 días después, 3 semanas y medio después, yo cogí las tijeras y apuñalé a un señor que hacía de mí. Yo necesitaba saber, lunes, trabajo verde, rojo y azul. Solo de esta manera pude sustentar, justificar un raccord que cuando esto fuera montado fuera inteligible. Por otra parte, es una película policial sin policía. Es una película de género, pero con humor. O sea, hay comedia, hay tensión, hay algo de miedo. Ha sido para mí un reto muy grande. Encima, rodé esta película con 2 hernias discales. Y ha sido una película muy física y muy accidentada. Una película en la que yo sufrí 3 accidentes. El que me doblaba a mi personaje sufrió otros 2 accidentes y fue tremendamente complicada. El modo de trabajar el personaje, que en definitiva es la cuestión, es la pregunta, ha sido simplemente intentar, muchas veces me sucede, esto es una anécdota aparte, la podrás traducir muy bien, pero es que voy a pedir y digo, quiero un entrecot. Y te ponen un entregot tan grande que se te cierra el estómago. Uh-huh. Y yo pensé, tengo que comerme este entregot con los ojos vendados y vete dándome entregot. Si yo no veo el entregot, no veré lo grande que es. Yeah. Así pues, mi trabajo ha sido compartimentar uh-huh. en días mi responsabilidad y ponerle colores a mi estado de ánimo. Solo así podía conseguir que el collage, al final, tuviera un raccord. Tuviera una continuidad, una progresión dramática lógica.
Le défi a été assez considérable et pour prendre une métaphore, je vais prendre la métaphore de l'entrecôte, c'est-à-dire imaginez, vous rentrez dans un restaurant, vous demandez une entrecôte et le serveur vous apporte une entrecôte absolument gigantesque. Mais ce qui se passe, c'est que votre estomac va se fermer et du coup vous n'allez pas pouvoir finir cette entrecôte. Donc ce rôle, ce défi était tellement énorme que du coup j'ai décidé d'y aller plus ou moins les yeux fermés et de compartimenter, de fragmenter en fin de compte ce personnage, parce que bon, imaginez, à moi seul c'est presque la Sainte Trinité, c'est-à-dire Hector 1, Hector 2, Hector 3. Alors j'avais une technique, puisque à ce problème-là se rajoute le problème de du fait qu'on ne tourne pas dans la continuité. Pour vous donner un exemple, le premier plan que j'ai tourné, je suis à genoux et je me fais poignarder, et 3 semaines et demie plus tard, c'est moi qui suis le personnage qui poignarde mon double. Donc il me fallait véritablement, pour arriver à me caler, mettre derrière chaque état d'âme, chaque impression, ce que ressent le personnage, je lui attribuais des couleurs. Et donc je m'étais fait un planning bien précis, sachant que par exemple le lundi, il y avait du rouge, du vert et du jaune par exemple. Et c'est comme ça que moi je pouvais fonctionner, c'est comme ça que je pouvais m'y retrouver. Donc avec cette fragmentation, du personnage, parce que sinon ça aurait été véritablement, je vous le dis franchement, j'aurais pas pu. Et l'utilisation de la couleur pour les émotions et pour l'état d'âme, à cause même des contraintes de tournage qui fait qu'on ne tourne pas, enfin c'est très rare, à quelques exceptions près, que l'on tourne un film dans l'ordre chronologique dans lequel il se passe des événements.
Alors justement, dans l'évolution du personnage, c'est une impression personnelle, mais c'est toujours subjectif, mais j'ai l'impression que ce personnage, en fait, à chaque fois qu'il fait une réplique de lui-même, se déshumanise. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il perd de l'humanité, en fait. Et il devient de plus en plus odieux, quoi. Au point de sacrifier quelqu'un.
Es la sabiduría. El primer viaje que hace él es angustioso. Se mete en un líquido. Metafóricamente podría hacer el humor que está en la placenta del parto de un ser humano. Se mete en un líquido y se asfixia. Y luego, cuando hace el tercer viaje, sale tranquilo, aquí no ha pasado nada. Digamos que él, de ser un ser lleno de sensaciones, se va pragmatizando. Se va haciendo una persona mucho más obsesiva por volver a su status quo anterior, dejándose de humanidades, hasta tal grado que se puede acabar convirtiendo en potencia en un criminal. En un criminal. Lo atípico por parte del director, que me da mucha pena que no esté aquí, es que en todas las películas cambiamos un Xinca 1000 antiguo por un Xinca nuevo. En este caso, el chico mata al Xinca nuevo para quedarse con el antiguo. Pero sí que es cierto que hay un proceso de Héctor 1, Héctor 2, cuando crece Héctor 3, viaja al futuro, no al pasado. Cuando vuelve Héctor 3, lo sabe todo. No tiene tiempo para educaciones, para manifestaciones de humanidad. Es pragmático, es científico, es un hombre cada vez más cruel, cada vez más peligroso.
Ben, on en revient en fait à ce que je disais tout à l'heure concernant cette volonté du personnage de revenir vers un statu quo. Donc au fur et à mesure, il se délaisse plus ou moins d'une forme d'humanité pour le remplacer par une forme d'obsession, une obsession presque compulsive, c'est-à-dire revenir à tout prix à l'état de départ. Donc, et le fait de revenir à l'état de départ, ça implique une connaissance de plus en plus profonde de du processus dans lequel il s'est retrouvé. Au début, c'est vrai que la première fois où il se met dans la machine, c'est un peu comme s'il était dans le liquide matriciel, en quelque sorte. Il étouffe. Bon, regardez, comparez ce moment-là où il sort de la machine à moitié étouffé avec la fois où il sort, où il se débouche les oreilles. Donc, il s'est débarrassé, en quelque sorte, des oripeaux de la terreur et de la méconnaissance en acquérant une forme de connaissance. Et il n'a plus qu'à foncer, quoi. C'est-à-dire, son but, c'est... Il en viendrait même presque à tuer pour revenir à ce statu quo. Donc voilà, c'est en quelque sorte paradoxalement la connaissance, le fait de savoir qui fait qu'il y a le pragmatisme qui s'impose au lieu des émotions. Donc les émotions, il les laisse. Il y a un pragmatisme, il y a une idée fixe, c'est revenir au statu quo.
La façon dont se termine le film, alors ça ne laisse pas supposer qu'il y a un Hector 4, mais en même temps... Le spectateur, libre au spectateur, je dirais, d'en rajouter.
Hay una cosa, las películas, a mí no me gusta leer una crítica de una película antes de ir a una película. Tiene que haber una relación directa entre el pintor y el espectador. No puede haber un crítico diciendo, no vayas a ver a Toulouse-Lautrec en esta exposición que es una puta mierda. Eso enturbia, corrompe, prostituye la relación pura entre artista y cliente, por decirlo de alguna manera, ¿no? No está la película abierta. La película lo dice claro. Hay un momento que yo digo en la película, oye, llamo y digo dos veces, dos llamadas. Está bien puesto, es difícil entender. Digo, oye, ahora va a subir arriba un tío y te va a decir que quiere entrar. Dile que no. Y dice, ¿por qué? Porque así al menos te vas a llevar dos hostias, chaval. Es decir, cuando la película acaba, el BMW, el X4, sube hacia arriba. Él hace así con la tijera, agarra a su mujer. Y el BMW sube hacia arriba. Es que va a subir y el chico le va a decir no. Y él va a coger la barra de hierro y le va a hacer ¡pam! ¿Dónde está la pila? Aquí. ¡Pum! ¡Pum! Es decir, solo queda él. No hay Héctor 4. En la película, las películas, lo que digo es la gente va, se divierte y punto. A mí me gusta que las películas la gente discuta. Y esta película la gente discuta, hay un Héctor 4, podría haber una replicación de 15 Héctors. Y dice el otro, no has entendido la película. La película no está acabada de explicar, pero todo el mundo que vea la película científicamente sabe que la película está cerrada. El BMW sube hacia arriba, le dice, quiero entrar. El chaval le dice, no. Le dice, ¿dónde está la pila? Llueve, dice, está aquí, cógela. Pum, pum, al final entra. Yo, este Héctor, el último, el único... No existe Héctor 1, Héctor 2, Héctor 3. Es el mismo Héctor. Es la película la engañosa. El Héctor siempre es el mismo.
Sí, sí.
Nosotros tenemos que, para compartimentar la película, decir Héctor 1, Héctor 2, Héctor 3. Y en el guión decía Héctor 1. Y aquí Héctor 2. Pero hay un momento entre que yo me quito este jersey y me pongo el otro, en el que, ¿qué soy? Héctor 2 y medio. Héctor 3 menos cuarto. Héctor es Héctor. Sin embargo, al final de la película, lo que queda claro es, yo he acabado aquí siendo el mismo. He matado a la chica joven, suplantándola por mi mujer. Esa fue la obsesión que me hizo entrar en la cubeta otra vez, que nadie entiende por qué quiere ir a la cubeta otra vez, para intentar arreglar la muerte de su mujer. Y él consigue cambiar mujer por chica, y al final el BMW sube arriba, y el fatum, o destino, que es el fatum en definitiva, es el que hace que ese hombre... Cuando le dice el chaval, le dice que no, y él entra a pesar de todo. Solo queda un Héctor y su mujer. Crimen perfecto.
En fait, si vous regardez bien à la fin du film, lorsque le couple est assis, donc dans le fauteuil, vous voyez une voiture qui monte donc vers le laboratoire. Et si vous vous souvenez bien, à un moment donné dans le film, un des acteurs téléphone et dit il y a quelqu'un qui va monter. Il y a quelqu'un qui va monter, ne lui ouvre pas. Et donc à ce moment-là, donc comme le scientifique ne lui ouvre pas, il casse en fait il fracasse donc la baie vitrée. Et après, bon, va rentrer plus ou moins dans la machine, ce qui fait qu'il n'y a pas de quatrième Hector, en fait. L'histoire se conclut de cette façon-là. Donc voilà. Donc en fait, il n'y aura pas un quatrième Hector. Et c'est intéressant d'ailleurs la question que vous posiez, parce que ce film, quand les gens le voient, ça donne lieu à des discussions pour savoir exactement s'il n'y a pas un petit détail qui fait que non. Et tout est extrêmement millimétré dans ce film-là. Si vous regardez bien le détail avec la voiture qui monte et le fait que vous vous souvenez qu'il a appelé deux fois, fait que effectivement le cercle vicieux s'arrête, quoi. Donc il n'y a pas en fait de quatrième Hector. Et pour redire les choses clairement, on a appelé Hector 1, Hector 2, Hector 3, mais en fait c'est toujours et même le même personnage, voilà. Sauf que il n'y aura plus de superposition dans la mesure où, une fois arrivé au laboratoire, la personne aura reçu déjà deux coups de fil.
Question d'ordre général, votre regard sur le renouveau, parce qu'il y a une longue tradition quand même, sur le renouveau du cinéma fantastique espagnol, depuis Abandonné de Nacho Cerdà, qui a été un peu le détonateur. Il y a eu Intacto d'abord de Fresnadillo il y a quelques années, mais là depuis quelques années, que ce soit Rec, donc de Plaza et Balaguero, Les Proies, on pourrait citer aussi, j'en cherche un autre qui m'échappe, l'Orfelina de Bayona. Enfin, je veux dire, il y a tout un foisonnement actuellement dans le cinéma espagnol où on revient, on va dire, au cinéma fantastique. Est-ce que c'est important actuellement en Espagne et comment vous voyez ça, quoi?
No, lo estáis viendo muy bien. Existe ciertamente y tiene una lógica. Yo soy vasco. Si hablamos de la primera hornada de realizadores vascos, pues la primera, cuando digo la primera hornada, digo Erice, Armendáriz, Ezeiza, Zulueta, son una primera generación. Luego hay una segunda, que son Uribe, Armendáriz, y luego hay una tercera, que son Bajo Ulloa, Calparsoro, Meden, Ales de la Iglesia, y luego hay una cuarta, que son Calparsoro, Nacho Cerdá, Borja Cobeaga. ¿Qué sucede? Que si nos vamos al principio de estas generaciones, nos limitábamos a hacer endogamia cinematográfica, a hablar de España y los problemas de España. Y los complejos de España. Los complejos de España que hasta en las comedias españolas pasaban por ir a Perpiñán a follar porque en España no se podía.
No se podía.
Ok. Entonces, a medida que los realizadores son más jóvenes, la cosa patria, el hacer cine de la posguerra, cine, hablando de nuestras miserias, dando vueltas endogámicamente sobre lo que es España, han empezado a internacionalizarse. Es decir, a medida que la sensibilidad política, por decirlo de alguna manera, pero no política, política de lo apolillado. Entonces, ya no se hacen comedias de lo acomplejados que estamos los españoles con el sexo. Ya no se hacen películas, o no tantas, sobre Ay Carmela, sobre la Guerra Civil. Los nuevos realizadores de 22, 23 años quieren ser internacionales. Y las propuestas que hacen Jaume Balagueró, con Los Sin Nombre, con Darnes, Ales de la Iglesia, todos ellos, las propuestas son mucho más tendentes por el medio de utilizar el género. Al ser genéricas, son más susceptibles de ser internacionales que no películas endogámicas que hablen de España. Es decir, el caso de los cronocrímenes, a día de hoy, lo podía haber hecho Kusturica, podía haberse dado en cualquier país. No es una película que huela a español, esta película. Precisamente, ¿por qué? Porque la tendencia de los nuevos realizadores en España, y la estáis viendo muy bien, es a internacionalizarse, a dirigir, a exceder las fronteras de lo patrio, de lo hispano, a intentar hablar de propuestas que, sin dejar de ser españolas, por el mero hecho de ser un proyecto de género, se salen un poquito de esa cosa que para mí es un karma y que lo hemos vivido mucho tiempo, de hablar endogámicamente de nuestra situación desde el complejo.
Sí, pero ¿cuál es la causa y la consecuencia?
La causa es que los nuevos realizadores no están tan politizados, ni tan envenenados, ni tan próximos a la guerra civil para hablar de cosas españolas. Nueva gente, nueva sangre, gente joven que no esté tan condicionada por lo político ideológico o por el complejo de ser españoles que a veces tenemos los españoles de cara a Europa. Piensa que somos el sur, que somos el culo de Europa. Y yo creo que los nuevos realizadores hacen propuestas susceptibles de ser mucho más internacionales. No tan localistas, no tan endogámicas. Y creo que es bueno. Y que cada nueva generación nos sacará de esa especie de ancestral necesidad de volver sobre nuestras vísceras. Que hay un momento que hay que sentir que tenemos entidad suficiente para ser internacionales y hablar de problemas que en esta película podían ser lo mismo Bosnia, Italia, Roma o México. En cualquier lugar se podría dar esta circunstancia.
La réponse à ce problème-là, elle est toute simple, c'est que... Il y a eu toute une génération, une première génération de réalisateurs, puis une deuxième génération, une troisième génération. Et la particularité de ces générations précédentes, en fait, c'est qu'ils faisaient plus ou moins, on va dire, une forme de cinéma endogame, c'est-à-dire filmer les problèmes de l'Espagne, filmer l'Espagne, l'histoire de la guerre civile, de l'après-guerre civile, les plus ou moins les fantômes de la guerre civile. Voilà, donc il fallait, je pense, plus ou moins sortir enfin de ces thématiques-là, un peu à la limite étouffante à force d'être filmé, ce qui fait que cette nouvelle génération, voyant que s'il continuait plus ou moins à tourner toujours ce même genre de film qui est extrêmement ciblé Espagne, ne sortirait jamais, n'aurait jamais la possibilité d'être montré dans des pays et d'être distribué dans des pays étrangers. Donc il se passe quelque chose de curieux, c'est que du coup, moi j'ai l'intime conviction qu'en fait, ces jeunes réalisateurs dont vous parlez, leur idée pour pouvoir justement montrer les films à l'étranger, c'est de justement filmer des histoires de genre, c'est-à-dire un genre par essence n'a pas de patrie, n'a pas de frontières, est quelque chose d'assez international. Donc moi je pense, j'ai l'intime conviction, que en fin de compte ce n'est pas le genre qui fait que le film est montré, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire ils se sont dit comment sortir de ça, comment faire des films qui pourront rapporter de l'argent, qui pourront nous permettre d'en faire d'autres, ben, la réponse est là. C'est le genre fantastique, le genre un peu surnaturel, qui plaît beaucoup. La preuve, bon voilà, donc vous citiez le cas de Balaguero, qui en plus a pu tourner en langue anglaise, avec des comédiens étrangers. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose, quoi. Sortir un peu de ce carcan un peu étouffant de tout ce qui a pu, même on va dire à l'échelle de la province, du village, sortir de l'Espagne, sortir des vieux démons de l'Espagne, même s'il est important de les avoir traités à une époque précise, mais sortir de tout ça et proposer d'autres choses pour essayer de montrer une forme de vitalité du cinéma espagnol.
Quelque chose à rajouter pour finir qui vous paraisse important?
Precisément, los seres humanos somos tendentes a generalizar y clasificar. Una película de género no tiene por qué estar ausente de comedia o de situaciones de comedia. Pocas veces me ha nombrado nadie la comedia en España, cuando he promocionado estas películas en muchos de sus festivales. Me ha llamado la atención que él ha comentado que la película, lo habéis comentado, tenía algo de comedia, algo de drama, algo de... Efectivamente, Nacho es un gamberro, es una persona maravillosa, enloquecida, con muchas ganas de patar, pero muy gamberro. Y muy él intenta destrascendentalizar las cosas dentro de que juega a convenciones mitómanas y de género, ¿no? Entonces él se obsesionó mucho en que hubiera momentos en la película que tuvieran comedia, que fueran cuanto menos chocantes o celebrados por, y muchas veces en esta película nos hemos sorprendido porque no siendo cine gore en el que sangre, sudor, tripas y risas son todo un conjunto, y no es cine gore, el público, muchas veces en festivales de cine fantástico, Sitges, San Sebastián, tendía a reír, ¿no? Y a mí, al principio, yo le decía al director, coño, me molesta. La gente dice, no, es premeditado, Carra. Hay momentos que son cómicos en la película. Es una cosa que me llama la atención que aquí la hayáis detectado, y hasta ahora nadie me había hecho ningún comentario acerca de comedia en la película. Es simplemente una reflexión que hago, ¿no?, y que me llama la atención. De la película lo he dicho todo. No me queda nada por decir. La he visto 10.000 veces. Hoy la presentaré y con mucho gusto, ¿me entiendes? Pero la he visto muchísimas veces y yo soy una persona que me hacen una pregunta cortita y hago una contestación muy extensa. Por lo tanto, no me queda nada de decir de la película. Solo alabaros el gusto y alabaros la cosa, el detalle, la sensibilidad de entender que en una película de género, incluso de terror, caben momentos para la comedia o cuanto menos para el desfogue.
Insister tout simplement, voilà, mais vous l'avez remarqué tout à l'heure, donc ce qui me ferait plaisir, ce serait en fait de signaler que voilà, ce qui me plaît le plus dans ce film-là, que j'ai vu, je vais dire, une trentaine de fois, c'est que voilà, il y a, comme vous disiez tout à l'heure, plusieurs genres, mais il y a aussi le genre, et j'y tiens beaucoup, le genre un peu de comédie. Et au début, c'est vrai que ça me gênait énormément lorsque j'assistais donc aux projections publiques d'entendre les gens rire. Et Nacho, qui est le réalisateur, me disait, mais t'as rien compris, justement. C'est que ça fait partie, justement, c'est l'un des genres auxquels peut appartenir ce film-là. Il y a des moments de comédie, et c'est justement ça sur lequel je tenais à insister, c'est que, voilà, c'est... on peut faire comme ça des films extrêmement, on va dire, alambiqués, extrêmement recherchés, mais avec des touches comme ça de comédie qui ne déséquilibrent pas en fait le film et qui en font quelque chose de relativement bien fait, une unité, quelque chose de relativement, voilà, qui tient la route. Et ça, j'en suis pour le coup et après coup, après avoir assisté à des projections en compagnie du réalisateur et entendu parfois les spectateurs rire, ça m'a un tout petit peu décomplexé. J'en suis véritablement content. Voilà.
Apostillando esto, me gustaría decir, esto sí lo he dicho en otra ocasión, la pregunta es si hay algo que pueda decir que no he dicho nunca. Sí lo he dicho en otra ocasión, pero os llamará mucho la atención a la hora de interpretar este personaje, que es uno y es Trino. La gente dice, jo, qué difícil Héctor 3, ¿no? Qué difícil Héctor 2, ¿no? El personaje difícil de interpretar para mí ha sido Héctor 1, el hombre que no sabe. A mí me encantan los personajes cuando son malos. Un protagonista bueno, positivo, cristiano, maravilloso, que quiere a su familia, no tiene enjundia. Para mí es el protagonista. Yo prefiero hacer el malo, como Al Pacino, como Robert De Niro. Entonces, la dificultad no ha sido interpretar Héctor 3 ni Héctor 2, que parecen los difíciles. La dificultad para mí ha sido interpretar Héctor 1. No sé qué le pasa. Él no sabe cómo tiene que reaccionar. Yo como actor tampoco sé cómo tengo que interpretar a alguien que no sabe cómo reaccionar. ¿Eh? Y esa es la gran dificultad para mí. La dificultad para mí es ese personaje más próximo a mí, que nosotros lo hablamos de él como de un dominguero de estos que va por setas, que es un ser que no nos da ni cariño ni pavor, y poco a poco. Y después, cada personaje o cada vez que me dan un proyecto, cada plato, aquí que sabéis mucho de la cocina francesa, cada plato se cocina con una salsa distinta. Por lo tanto, yo, Héctor II, que es un hombre escondido detrás de una máscara, todo lo que tengo que hacer es comedia del arte. Es máscara, es comedia del arte. Es un trabajo totalmente distinto cuando soy Héctor II que Héctor III, que es un hombre sabio, que viene del futuro y lo sabe todo. Es ya toma las riendas de la situación. Ya no es un pez llevado por un anzuelo. Ya él es el que toma la decisión. El personaje difícil de interpretar en esta película para mí, palabra de honor y nadie se lo creería, es Héctor I. Ese hombre que va, mira, no entiende nada, es el más difícil. Héctor II es comedia del arte, la he trabajado gracias a Dios. Y Héctor III, pues bueno, es ese tipo de personajes canallas que me gusta interpretar.
Et je souhaiterais donc finir en disant qu'en fait, ce qu'il y a de curieux, lorsque, à la fin des projections, donc les questions fusent et les questions principales, c'est comment avez-vous fait vraiment pour interpréter Hector 2, Hector 3, parce que ça a dû être extrêmement difficile. Et moi, ce qui me fait un peu rire, c'est qu'en fait, le personnage qui m'a posé le plus de problèmes à interpréter, c'est le personnage de celui qui ne sait rien, c'est-à-dire Hector 1. Et c'est un personnage, il a une femme, il se promène plus ou moins dans sa maison de campagne. C'est comment interpréter la personne qui ne sait pas, qui est complètement paumée. Hector 2, si vous vous souvenez, c'est celui qui a le masque. Donc là, on est dans la comédie de la comédia dell'arte à l'état pur. Donc voilà, et c'était justement dans la gestuelle et tout. Et Hector 3, donc c'était extrêmement facile puisque c'était pratiquement une, on va dire presque une machine à tuer. C'est voilà, j'ai une idée en tête, revenir de là d'où je viens. Donc la véritable difficulté, c'était, aussi incroyable que ça puisse paraître auprès des spectateurs qui verront ce film, c'est le personnage du début, celui qui pour la première fois va rentrer dans cette machine qui va causer tant de catastrophes.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Et donc dans les beaux exemples de réussite du Forum Cartoon, donc, on permet vraiment à des nouvelles sociétés inconnues de se montrer, d'être vues. Donc l'exemple de Théâtre et Production, le studio toulousain, est vraiment emblématique, parce qu'il y a 6 ans, ils étaient venus à Pau, donc c'était la ville d'à côté ou à peu près, et sont venus incognito comme ça. France Télévisions les a repérés. Ils ont coproduit Spike, un spécial TV. Puis par la suite, maintenant, ils ont terminé même un deuxième Spike. Et donc, 4 ans après Pau, ils sont venus en Hongrie et ils ont été simplement le projet star de tout le forum. C'est-à-dire, c'était le projet star de toute l'Europe. Et donc, ça, ce sont des choses qui... Parce qu'ils ont du talent. Ils ont vraiment du talent. Et donc, le talent, on le voit immédiatement. Et du coup, c'est un accélérateur. Et au lieu de prendre son bâton de pèlerin et d'aller dans les différents marchés, sur le forum, ils sont repérés immédiatement. Là, il y avait 300 personnes dans leur salle, c'était incroyable.
Alors justement, ça corrobore, je dirais, un petit peu ce qui, la réflexion qui est faite dans le film français. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes sociétés inconnues donc, qui arrivent justement sur... sur Cartoon Forum, j'ai envie de dire, pour prendre une expression trivia, il y a de plus en plus de roquets qui mordent dans le gigot d'Obermann, quoi.
Oui, moi je dirais qu'il y a une nouvelle génération qui est là. Donc on l'a senti arriver depuis 2 ans. Et là, elle prend sa place. Et effectivement, les plus anciens, ceux qui étaient au début des premiers Cartoon Forum, ils ne sont plus très nombreux. Là, et donc il y a vraiment une nouvelle génération qui prend le relais. Qui bouscule les choses avec du talent, avec la créativité, avec des nouvelles idées. Et je trouve quand on voit les séries japonaises ou les séries américaines qu'on voit un peu partout, je trouve que l'Europe n'a vraiment pas à rougir parce qu'elle présente des choses très diversifiées, à la fois dans les graphismes, dans les contenus, dans les cibles d'âge, dans les techniques. C'est vraiment remarquable. Et je voudrais, parce qu'on critique souvent l'Europe, mais... Si le Forum Cartoon existe, c'est parce qu'il y a l'Europe derrière et que le programme média de l'Union européenne soutient ce genre d'initiative au niveau de l'organisation. Mais derrière l'organisation, ce sont 500 projets qui ont vu le jour et qui n'auraient jamais vu sinon.
Je me demandais si Cartoon Forum avait des relations avec Cartoon Movie, qui est un peu le pendant cinéma. Est-ce qu'il y a des interactions, notamment à travers les films d'animation cinéma, mais produits avec l'argent des télévisions?
Tout simplement, ce sont les mêmes organisateurs. Nous organisons à la fois le Cartoon Forum pour les séries télé, ici à Toulouse. Et là, depuis plusieurs années, nous organisons Cartoon Movie à Lyon. Et là, c'est pour les longs-métrages. Donc, effectivement, on a démarré le Forum Cartoon il y a 23 ans. Et il y avait à l'époque très, très peu de longs. Il y avait même pratiquement que Disney. Et puis, il y a eu le déclic de Kirikou, en fait. Et donc, on a pris cette vague parce qu'on a démarré Cartoon Movie au moment de Kirikou. Donc, on a pris cette vague naissante. Et parce que Kirikou a été le moment où la porte s'est ouverte. Où on s'est rendu compte tout simplement qu'un film d'animation européen en long métrage, donc un film, peut rencontrer son public. Jusque-là, personne n'avait fait la preuve de ça. Donc Kirikou était le premier, avec 1,5 million entrées, je pense, sur la France.
Un film d'animation européen, il y avait quand même les films de Pichat,
oui.
Avant, dans les années 70.
Bien sûr, il y a eu Le Roi et l'Oiseau, il y a eu les films de Jean-François Leguioni, les films de Pichat. Donc il y a eu, j'allais dire, plic-ploc comme ça, un film qui arrivait à se faire remarquer. Mais ce qui s'est passé depuis Kirikou, depuis que Cartoon Movie existe, c'est que là, ça s'est structuré en fait. Et je dirais même que les Américains ne nous ont pas vu venir parce qu'on n'a vraiment pas grignoté, mais on a pris des parts de marché. Et moi, je me souviens très bien qu'à la 10e édition, j'avais fait des statistiques en disant il y a eu, je crois que c'est à l'époque, c'était 130 films qui avaient été financés, qui avaient été produits, distribués. Si je me souviens bien, il y avait une vingtaine, une trentaine de films qui avaient fait plus de 2 millions d'entrées sur l'Europe. Ce qui est déjà pas mal et qui est assez significatif. Et les Américains ne l'avaient pas vu, en fait. C'est quand ils ont vu les chiffres qu'ils se sont dit, tiens, quelque chose se passe. Et ils ont réagi, ça. C'est depuis ce moment-là qu'ils font deux films par an, qu'ils occupent le terrain, qu'ils sont un peu plus nombreux, encore un peu plus agressifs au niveau du marketing. Et donc, ce qui nous complique la tâche, parce que du coup, on a plus de difficultés à poser le film. Comme on n'a pas les moyens sur le long métrage, on n'a pas les moyens financiers pour faire du marketing à l'américaine. Donc notre seule capacité à rencontrer le public, c'est que le film se réussit et c'est le bouche-à-oreille. Et donc pour ça, il faut poser le film. Il faut lui laisser le temps que le bouche-à-oreille puisse se faire, comme Kirikou l'avait fait, comme la triplette de Belleville l'avait fait, etc. Parce que voilà, 3 semaines, 4 semaines, et donc on n'arrive plus au score qu'on faisait il y a 5 ans. Et donc voilà, donc maintenant il y a une nouvelle stratégie à mettre en place, on discute avec la Commission européenne pour essayer de soutenir ça, et donc voilà, il faudrait essayer de mettre des moyens pour au niveau du marketing. Et la plus belle preuve, c'est que les films qui sont européens, toujours des cinémas européens, qui sont pris et distribués par les grands groupes, comme Gaumont, comme Pathé et les autres, ben ceux-là dépassent, moi je dirais, facilement le million d'entrées, pratiquement à chaque fois. Et ceux qui sont distribués par des distributeurs indépendants, ben, ils stagnent à 300, 500, 700, 800 000 entrées, alors qu'avant, ils auraient dû faire 1 million. Et donc, c'est juste une question d'argent, en fait, mais on va réagir, on va essayer de réagir, en tout cas.
On revient peut-être à la télévision et justement à cette idée de marché européen, transfrontalier donc, mais alors d'un autre côté ça peut être bien effectivement pour l'aspect financier des choses, mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dirais, de formatage au niveau de la création, dans la mesure où chaque pays va essayer d'une certaine façon de raboter ce qui peut le gêner, quoi.
Oui, en dessin animé, je pense qu'il ne faut pas se poser du tout cette question-là, parce que c'est pas le cas. Moi je trouve que quand on voit même ici des séries qui sont très formatées comme ça, voilà, dans une direction un peu plus commerciale, ben, ils n'ont pas des salles pleines. Donc les salles pleines, mais c'est les projets qui étonnent, qui viennent avec des nouvelles techniques ou des nouvelles images qui surprennent. Et c'est ça qui attire vraiment à la fois les diffuseurs, les investisseurs, en tout cas sur ce type de marché-ci. Après, il y a la réalité, il faudra convertir l'essai. Mais
après, il faut que ça soit acheté aussi.
Voilà, c'est ça, donc il faudra convertir l'essai au-delà des marques d'intérêt, il faudra vraiment qu'il y ait des contrats et que la série se fasse. Non, moi j'ai pas peur de l'europudding en animation. Je veux dire, ils sont habitués depuis 20 ans à travailler ensemble dans différents pays. Je trouve qu'à partir du moment où la créativité et le projet créatif est bien cerné, voilà, moi je dirais même au contraire, dans le dessin animé, je trouve que le fait qu'il y ait ces coproductions, ben, ça pousse chaque fois la créativité plus loin. Et je trouve qu'ici, on a des projets plus classiques, mais on a aussi beaucoup de projets qui osent et qui sortent des sentiers battus comme ça. Et on entend les diffuseurs dire, ouais, il faut oser, il faudrait le prendre. Mais j'ai dit, bah, oser. Allez-y, les Simpsons, c'est un bon exemple. Hein. Pendant 10 ans, ils ont ramé jusqu'au moment où il y en a un qui a dit, finalement, j'aime, je vais quand même le prendre. Et puis c'est devenu un succès planétaire. Voilà, et donc c'est aussi diffuseur de... Je dirais même aux diffuseurs publics aussi de prendre leurs responsabilités et de prendre un peu plus de risques par moment.
En ce qui concerne Cartoon Forum en particulier, sur le niveau budget, comme c'est actuellement une crise financière, enfin un marasme on peut dire financier un petit peu dans toute l'Europe avec certains pays hein, plus que d'autres, mais est-ce que ça se répercute, je dirais, ces dernières années plus qu'au début par exemple ?
En tout cas dans l'audiovisuel... certains pays sentent la crise, mais je pense qu'on la sent un petit peu moins que dans d'autres secteurs industriels. Ça, je le pense vraiment. Donc, on n'en est pas au marasme dans ce secteur-ci.
Enfin, en tout cas, dans le secteur d'animation.
Dans le secteur d'animation, on n'en est pas au...
Par exemple, je sais qu'en Espagne, par exemple, on le voit, quoi. Il y a eu un démarrage de 75 films au premier semestre de l'année dernière. Et cette année, on n'en est même pas à 25, quoi.
Non, je sais bien que l'Espagne est vraiment un cas à part, y compris en animation. Donc là, c'est beaucoup plus triste, en fait, ce qui se passe là-bas. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai essayé de les convaincre de venir, parce qu'ils doivent rester dans le mouvement, dans le circuit, et continuer d'exister, parce que même avec des copros françaises ou allemandes, ben, voilà, le projet peut aussi voir le jour. Donc c'est vrai, mais voilà, donc, y a une double... La réalité se lie à plusieurs niveaux. Donc on constate qu'il y a toujours besoin de contenu de plus en plus et d'assyries qui se vendent dans 30, 40, 50, 80 pays. Donc l'animation est vraiment le vecteur qui s'exporte le mieux. Voilà. De l'autre côté, il y a au niveau du financement, parce que l'animation est chère. Donc
Il prend du temps.
Il prend du temps, mais c'est cher parce que c'est de la main-d'œuvre, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Donc effectivement, les financements sont plus difficiles. Mais comme l'animation fait pas mal de copro, donc elle est un petit peu plus facile à trouver ses financements. Voilà.
Si vous avez quelque chose à rajouter qui vous paraisse important, voilà, c'est bon.
On a déjà dit beaucoup de choses.
Merci beaucoup.
Got a